Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, cap sur les États-Unis. Vous le savez, impossible de l'ignorer, la puissante Amérique élit son nouveau président le 8 novembre prochain. Les deux candidats ont mené une campagne très dure. Donald Trump n'a pas ménagé sa concurrente, Hillary Clinton, qui a résisté stoïquement aux attaques. Et si les sondages disent vrai, le 8 novembre au soir, c'est une femme, Hillary Clinton, qui succédera à Barack Obama. Mais quelle situation économique trouvera-t-elle ? Comment expliquer le vieillissement de la population américaine, la modeste croissance et la flambée des inégalités au pays de Microsoft, de Google et de Facebook ? Voilà quelques-unes des questions que je vais poser aux quatre invités que je vous présente maintenant. Bonjour William Stewart.
Bonjour.
William Stewart, vous êtes américain, vous avez fait vos études dans le New Jersey, pas loin de New York, et vous vivez en France depuis très longtemps. Vous êtes enseignant à l'American Graduate School of Business and Economics. Est-ce que vos étudiants s'intéressent de très près à la campagne électorale en cours et aux implications économiques de cette campagne ?
De très près, non. Non,
pourquoi ?
Jamais.
Pourquoi ?
Jamais. Parce qu'ils sont jeunes. Et donc ? C'est loin d'eux. Et ils savent tous que Hillary est la meilleure personne de l'histoire des États-Unis et qu'il a un mari très fidèle.
C'est ce que vous leur dites.
C'est ce qu'ils pensent.
Alors, avec nous également dans ce studio, Véronique Riche-Flores. Bonjour, Véronique.
Bonjour.
Véronique Riche-Flores, vous dirigez un centre de recherche économique qui porte votre nom, Véronique Riche-Flores Research.
Exact.
Vous faites du conseil aux banques et aux investisseurs. Est-ce que le résultat de l'élection américaine inquiète votre clientèle ?
Eh bien, moins qu'il ne me préoccupe moi-même. Je dois dire que les investisseurs sont pour l'instant relativement confiants, d'abord dans la victoire d'Hillary Clinton. Alors, se posent bien des questions, effectivement, sur ses marges de manœuvre, etc. Mais à partir du moment où le scénario Trump a été un petit peu mis de côté, comme les sondages le suggèrent, c'est vrai qu'on a senti que les investisseurs ont très rapidement écarté cette source de préoccupation. Donc, et comme je suis un peu moins certaine à la fois des résultats, mais surtout des marges de manœuvre d'Hillary Clinton face à une situation extrêmement compliquée, je suis personnellement un peu plus inquiète.
Nous en reparlerons tout à l'heure. Denis Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Denis Ferrand, vous êtes le directeur général de Coerex Ecode, ce qui veut dire Centre d'observation économique et de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises. On en a terminé.
Bravo.
Votre centre a deux missions, la veille économique et la participation au débat de politique économique. Est-ce que cela veut dire que vous participez au débat de politique économique sur les États-Unis ?
Nous sommes très centrés sur la France pour le débat de politique économique, mais en revanche, cela ne nous interdit pas de regarder les programmes des deux candidats. Et il y a des divergences qui sont quand même majeures entre les deux protagonistes à l'élection américaine. Et il n'y aura pas probablement la même économie américaine selon les deux branches alternatives, selon la branche alternative. Selon qui l'emporte, tout à fait.
Je termine ce tour de table par vous, Douglas Yates, bonjour.
Bonjour.
Douglas Yates, vous enseignez à l'université de Cergy-Pontoise dans la proche banlieue parisienne. Vos travaux universitaire mêle politique et économie. Vous avez beaucoup travaillé sur l'Afrique, en particulier un livre publié en 2012, The Scramble for African Oil, qu'on peut traduire en français La ruée vers le pétrole africain. C'est aux éditions Pluto Press à Londres. Mais vous travaillez aussi sur les États rentiers. Est-ce que l'État fédéral américain est un État rentier ?
Ah non, mais c'est vrai, les États-Unis sont riches en ressources naturelles, premier producteur de plusieurs choses comme de l'or, de manganèse, de phosphate, mais ça ne dépend pas sur leur rente minière. Donc non, c'est pas un État rentier.
Alors, au cours de cette émission, des reportages tous signés Carlotta Morteo. Carlotta Morteo qui traverse en ce moment les États-Unis d'est en ouest, de New York à San Francisco, et qui, à l'occasion de trois de ses haltes, nous a envoyé des témoignages sur l'économie américaine. William, William Stewart, je vous donne la parole en premier. On a l'impression que l'économie n'a pas occupé une place très importante dans l'actuelle campagne électorale américaine. C'est exact ou c'est une impression trompeuse?
Oui et non. Je crois que ça n'a pas joué un grand rôle pour les démocrates parce que les démocrates sont au pouvoir. Et l'économie américaine va très bien. Le chômage est à 5%. La croissance n'est pas aussi haute qu'on voudrait, l'inflation est assez basse, mais c'est une autre question sur les mois à venir. Monsieur Trump, par contre, a basé la plupart de son argumentation sur le fait que les Américains sont beaucoup plus pauvres qu'il y a 8 ans, ce qui est faux, que le chômage c'est 15-20%, qui est faux, que les Mexicains, les Portoricains, je ne sais pas qui, rient dans leur barbe aux États-Unis parce que les États-Unis sont tellement faibles, ce qui est faux. Mais personne ne l'a réellement pris au sérieux, sauf les gens qui adorent M. Trump, qui l'ont pris très au sérieux et qui ont indiqué hier dans le New York Times qu'ils sont prêts à faire une révolution violente quand Hillary gagnera, qui est absolument...
Alors, on va revenir au sujet purement économique. William Stewart disait à l'instant que les États-Unis, sur le plan économique, allaient très bien. C'est votre impression également, Véronique Richlores?
Alors, c'est une appréciation qu'il faut toujours avoir de manière relative. Alors, relativement à la zone euro, les États-Unis vont formidablement bien, notamment en matière de chômage. Relativement à l'histoire économique américaine, alors, c'est une autre histoire. Et on peut effectivement être tenté de dire que l'économie américaine va très mal. Très mal parce qu'en réalité, elle est en panne de ce moteur qui est absolument essentiel dans une économie très cyclique. C'est le moteur de la productivité. Et sans cette productivité, on voit que les entreprises n'arrivent pas à créer durablement d'emplois. On voit que par ailleurs, le secteur tertiaire des services qui a été le gisement d'emplois en particulier des emplois peu qualifiés qui ont permis de hisser toute une grande partie de la population américaine dans le marché du travail et d'en faire des classes moyennes qui consomment, qui se logent. Et donc une dynamique qu'on regardait, nous, d'Europe, traditionnellement, avec des yeux envieurs. Cette dynamique n'existe plus parce que la crise, effectivement, le poids de la dette, l'exclusion font que ça devient de plus en plus difficile. Donc, vous voyez que si on se cantonne aux chiffres américains de ces quelques derniers mois, on a l'impression que tout va très bien. Si on remet dans une perspective plus longue, alors c'est une autre Amérique qui se dessine et qui explique vraisemblablement la montée, effectivement, d'une certaine revendication.
Denis Ferrand, votre analyse sur l'économie américaine, il y a aussi, quand on met en perspective, à relativiser cette bonne santé?
Il y a effectivement des changements qui sont assez majeurs sur l'économie américaine pendant très longtemps. La référence de croissance que l'on avait pour l'économie américaine et qui permettait d'avoir une montée des revenus, non pas homogène, mais en tout cas une montée de ce que les ménages pouvaient gagner, c'est le référentiel de croissance, c'était à peu près 3% de croissance du PIB pour les États-Unis. Sur les années à venir, ce référentiel ne sera plus à 3%, mais ce sera plutôt aux environs de 1,6, 1,8. Ce sont les projections que retiennent un institut très sérieux comme le Congressional Budget Office, qui donne ses prévisions à un horizon de 10 ans. Et pour deux explications principales, la première explication que rappelait Véronique Richlores à l'instant, qui est le fait que les gains de productivité ralentissent et moins de gains de productivité, c'est moins de possibilités de distribuer du revenu, à la fois à destination des ménages, mais également à destination des entreprises. Et c'est aussi le fait que la dynamique démographique américaine n'est plus aussi forte qu'elle ne l'était au cours des 30 à 40 dernières années. La progression du nombre de personnes potentiellement en emploi va être désormais deux fois plus faible d'ici les 10 prochaines années qu'elle ne l'était précédemment.
On reviendra là-dessus dans la deuxième partie de l'émission, mais je voulais vous demander, Douglasiès, est-ce que vous partagez le point de vue de ces deux Français qui est beaucoup plus critique que celui de votre compatriote William Stewart?
Comme beaucoup, j'étais surpris en faisant un peu de recherche avant de venir et parler de sujets pointus de l'économie américaine, comme c'est difficile de distinguer entre l'économie américaine et l'économie mondiale. C'est tellement grande. Mais oui, je suis d'accord que probablement la croissance va pas continué autant qu'il avait, mais c'est énorme. C'est la première économie mondiale, un cinquième du PIB mondial. C'est des États-Unis. Il a les technologies de pointe. Vous avez des richesses de financement. C'est attire des financements du monde entier. Et ce qu'on voit, c'est dans nombreux secteurs, les sociétés américaines restent numéro un en aéronautique, Boeing, boissons, Coca-Cola, logiciels, Microsoft, pétrole, ExxonMobil, pharmacie. Donc, il y a des gagnants dans cette économie, mais certainement, il y a aussi des perdantes. Et ce que je veux juste conclure ce petit discours, c'est chez nous, le rêve, c'est la réussite individuelle. Donc, tout ça ne compte rien pour un individuel. La réussite d'un pays, c'est une abstraction. C'est mon réussite à moi qui compte. Et là, on trouve pour beaucoup des gens, leur portrait, de robot portrait d'économie américaine est misérable.
On va en parler, bien sûr. Laissez-moi vous dire quand même que l'un des phénomènes majeurs de ces dernières années aux États-Unis, en tout cas très important, ça a été l'émergence du gaz de schiste et l'effet que les États-Unis sont devenus exportateurs de pétrole. La baisse des cours mondiaux pose bien sûr des problèmes aux compagnies pétrolières. L'économie du Texas, par exemple, qui est un grand état pétrolier, en a pris un coup. En particulier, le bassin pétrolier permien, au nord-ouest de ce grand état. Mais à Midland-Odessa, deux villes accolées l'une à l'autre. Les pumps Jack, ces balanciers qui puisent l'or noir dans les sous-sols, poursuivent leur interminable balai. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Carlotta Morteo.
Au cœur de ces plaines arides où rien ne pousse, il flotte comme une étrange odeur de gazole mouillé. À l'horizon, de nuit, tout autour de la ville, des centaines, des milliers de points lumineux. Ce sont les grues et les balanciers des puits de pétrole dont dépend toute l'économie de la région.
Odessa, c'est la ville des cols bleus, ceux qui travaillent sur les champs de pétrole, alors que Midland est plutôt col blanc, ou vit la classe moyenne qui travaille dans les bureaux.
Pat Timpson a grandi ici, son père est ingénieur, sa mère secrétaire, tous deux travaillent pour une multinationale de l'énergie, lui est enseignant.
Odessa est très touchée par les hauts et les bas de l'industrie pétrolière. Quand la production ralentit, les emplois et les services qui dépendent du pétrole s'en vont. Du coup, c'est toute l'économie locale qui s'appauvrit. Les gens qui restent doivent s'adapter. Ce qui est vraiment dommage, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on réfléchisse à comment amorcer une transition pour mieux résister quand l'économie change.
En 2015, Midland-Odessa a perdu 12 000 emplois. Le déclin de l'industrie se mesure au Salon international du pétrole. Cette année, il occupe deux fois moins de surface qu'il y a deux ans. Mais de nombreux professionnels, même s'ils restent prudents, voient la lumière au bout du tunnel. C'est le cas d'Evan Sharp. Son entreprise fabrique des pièces et des câbles pour l'industrie pétrolière.
Cette dernière année a été un peu longue, mais les choses semblent aller mieux, surtout du côté de la fracturation hydraulique. On est content. Visiblement, le fracking est rentable, même si le baril de pétrole est à seulement $50.
Le fracking, une méthode d'extraction qui consiste à propulser de l'eau et des produits chimiques pour extraire le pétrole de schiste et le gaz des sous-sols. Voilà le genre de transition qui s'annonce dans la région. Braden Boyd conçoit des machines pour assembler des pipelines en tout genre et lui non plus ne se prépare pas à la fin des énergies fossiles.
Le Parti démocrate veut faire une transition vers les énergies vertes, énergie solaire, l'éolien, etc. Mais ces méthodes n'ont pas démontré leur efficacité, pas autant que ce qu'on espérait. Donc les énergies fossiles ne vont pas disparaître. Le gaz naturel est très abondant. Il est plutôt abordable, donc pour le moment, tant que ces technologies ne sont pas bien développées, on va continuer à utiliser le pétrole et le gaz.
Avec plus de 9 millions de barils produits par jour, les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole. Et cette année, après 40 ans d'embargo, ils ont commencé à l'exporter à l'étranger. La preuve que l'or noir est redevenu un enjeu stratégique pour l'économie du pays et pour sa politique étrangère.
C'était un reportage signé Carlotta Morteo. Ça nous décrit une économie très en dents de scie, William Stewart, avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas, des fluctuations très difficiles à encaisser.
Les bas et des hauts, c'est le point fort de l'économie de marché. Rien n'est garanti à vie. Les choses changent. Et le gaz de schiste, c'est nouveau. C'est dans les endroits où il n'y a personne. Et c'est dans les mêmes endroits où on a découvert le pétrole aux États-Unis pour la toute première fois dans le Pennsylvanie. Oui, ça va mal pour l'instant parce que le prix tombe.
Mais est-ce qu'il y a eu des bénéfices, Véronique Rich-Lorez, de ce gaz de schiste pour l'économie américaine?
Oui, incontestablement. Incontestablement, d'ailleurs, après la reprise d'après la crise des subprimes et de la crise financière mondiale, la reprise américaine qui a été quand même assez spectaculaire, finalement, a posteriori, on comprend qu'effectivement, cette reprise a été, pour une bonne partie, le résultat de cette émergence, cette nouvelle industrie, donc beaucoup d'investissements pour l'extraction du gaz de schiste, beaucoup d'emplois, y compris dans la partie immobilière, puisque finalement, on a vu émerger des villes nouvelles qui ont permis finalement de compenser une partie du choc post-crise immobilière de 2008. Donc, ça a été un point très fort. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que la baisse des prix à partir de 2014 a eu des conséquences aussi marquées sur l'économie américaine dans son ensemble. Ça a été un coup de frein considérable parce que c'était un soutien très important auparavant.
De différents.
Oui, effectivement, on peut voir le pétrole, le gaz de schiste aux États-Unis comme ce que les Américains appellent « mixed blessing ». À la fois, il y a des éléments positifs et des éléments qui sont un peu plus défavorables autour du pétrole. L'extraction pétrolière aux États-Unis, ce renouveau qui est arrivé avec le pétrole de schiste, le gaz de schiste, a également été un facteur de redynamisation de la compétitivité de l'industrie américaine, avec une baisse des prix qui a été favorable à cette compétitivité. Mais pour autant, quand il y a eu la baisse des prix à partir de 2014, là on a vu les impacts plus négatifs au travers d'un très fort recul de l'investissement dans ce secteur, un très fort recul de l'emploi dans ce secteur, mais ne l'oublions pas, compensé par la stimulation du pouvoir d'achat pour les ménages qui bénéficiaient de cette baisse des prix. Donc les Américains, une baisse de prix du pétrole, c'est nécessairement un mixed blessing parce qu'ils sont à la fois producteurs, mais aussi et surtout consommateurs de ce type de biens.
Est-ce que cela explique, ou à contrario, pourquoi est-ce que la croissance américaine baisse à ce point-là? Parce qu'elle reste malgré tout très, très faible, différent.
C'est un des éléments qui a joué. La baisse du prix du pétrole a joué défavorablement pour l'investissement pétrolier. Mais on a eu en même temps, depuis maintenant fin 2014 jusque début 2016, on a eu une très forte appréciation du dollar contre l'ensemble des devises. Cette appréciation du dollar combinée à une baisse des prix du pétrole et l'impact négatif que cela avait sur l'investissement du secteur énergétique, ce sont ces deux phénomènes qui ont contribué en grande partie à expliquer le ralentissement de l'économie américaine, qui est passé d'un rythme de croissance d'environ 2,6% en 2015 à 1,4, 1,5% sur 2016, sans espoir de forte réaccélération sur l'année 2017.
Douglas Yates, vous avez les mêmes explications à cette faible croissance. D'abord, est-ce que 1,6, qui est le chiffre qui est admis par exemple par le Fonds monétaire international pour 2016, c'est faible pour l'économie américaine?
Oui, parce que l'économie américaine appartient tellement fort aux économies mondiales, parce qu'il a créé une économie mondiale qui s'intègre tous les éléments d'économie américaine. Dès que l'économie mondiale ralentit, l'économie américaine ralentit. Donc c'est comparative à quoi? Comparative à Europe, comparative pas certainement aux pays en voie de développement comme la Chine ou l'Inde ou en Afrique où on a des croissances de 6 ou 7%, mais plutôt par rapport à Europe, des pays développés de OECD, au Japon par exemple. Là, les États-Unis, 1,6, 2%, c'est raisonnable parce qu'il est tellement riche, tellement avancé. Mais je conteste juste en principe l'idée que le gaz de schiste est bon pour l'économie américaine. C'est un dopage conjoncturel. C'est vrai. Ça a ajouté un élément à la conjoncture. Mais le coût à long terme, c'est pas seulement dans l'environnement, la perte de l'eau fraîche, par exemple, l'eau potable, la pourriture des mêmes, le tremblement de terre, par exemple, en Oklahoma avec tous les dégâts. Mais en plus, ça nous a ralenti à faire les transitions énergétiques. On continuait notre dépendance, notre addiction au charbon, au pétrole, au gaz de schiste. On a ralenti un développement nécessaire. Les vrais gagnants en 20e siècle seront eux qui ont laissé dans le sol toute cette pourriture.
Nous parlerons de ça et nous continuerons dans la deuxième partie de l'émission à discuter de l'état de l'économie américaine. Pour l'instant, nous avons rendez-vous avec un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Appelez-nous, exprimez.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démontre les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons de la principale économie de la planète, celle des États-Unis, à l'occasion de l'élection présidentielle du 8 novembre prochain. Quatre invités dans ce studio, Douglas Yates, professeur à l'université de Cergy-Pontoise, Véronique Rich-Flores, fondatrice de Rich-Flores Research, Denis Ferrand, directeur général du Centre d'observation économique Coerex Ecode, et William Stewart, professeur à l'American Graduate School of Business and Economics, c'est à Paris. Au cours de la première partie de l'émission, nous avons vu que malgré la baisse des prix du pétrole, la croissance américaine restait fragile, pour ne pas dire faible. Faible aussi le chômage, moins de 5% de la population est sans emploi. C'est une réussite de différence, c'est vraiment un bon chiffre. Oui. Si on compare, par exemple, à la France.
Oui, effectivement, on est vraiment sur des niveaux qui sont exceptionnellement bas, avec également une population active qui progresse quand même assez fortement sur la période récente aux États-Unis. En revanche, on a un phénomène qui est tout à fait particulier sur la période récente, c'est la très forte résilience de l'emploi. Très forte résilience par rapport à quoi? Par rapport au
Qu'est-ce
fait...
Qu'est-ce que vous appelez résilience?
Résilience, c'est le fait que l'emploi, en fait, continue de suivre son bonhomme de chemin. Au total, on est à près de 2 millions de créations nettes d'emplois chaque année, alors même que les conditions économiques ont quand même changé sur la période récente. On a eu un recul très important des marges des entreprises qui est intervenu depuis maintenant 6 trimestres. On a un tassement de l'investissement productif. Et quand on prend un peu de profondeur historique, quand on regarde par le passé, chaque fois que l'on a connu un recul des marges des entreprises, s'en suivait un recul de l'emploi, notamment de l'emploi dans le secteur marchand. On ne constate pas ce phénomène sur la période récente. On essaye, ce qui a pour corollaire le fait que les gains de productivité dont nous parlions tout à l'heure, les gains de productivité ne sont pas au rendez-vous, ainsi que Véronique tout à l'heure nous en parlions. Donc on a une situation de très forte résistance de la job machine américaine sur la période actuelle. Et tant que cette job machine fonctionnera à plein, alors on peut ne pas être inquiet sur la trajectoire de l'économie. Mais les fragilités existent.
Mais la job machine fonctionne à perfection, disait Denis Ferrand.
Oui, voilà. On a une société de consommation. Effectivement, c'est le marché intérieur qui est le moteur de l'économie américaine. Et là, je veux créditer un peu le président Obama et sa politique de bas taux d'intérêt. En fait, le dumping de dollars dans cette économie, c'est un keynésianisme assez fort qui a produit beaucoup de travail, si pas nécessairement le travail productrice.
Mais les bas taux d'intérêt, est-ce que c'est Barack Obama ou c'est la Réserve fédérale, Véronique Rich-Flores?
Ah oui, c'est surtout la Réserve fédérale, mais la Banque centrale américaine, mais probablement du fait de conditions structurelles de l'économie américaine, mondiale d'ailleurs, qui changent considérablement. Alors je voulais juste revenir sur la job machine, parce que la job machine, oui, fonctionne très bien, pas pour tous les Américains. Et c'est bien la grande différence de ce cycle et de cette reprise par rapport à la situation antérieure. C'est que les emplois bas de gamme, les emplois dans le tertiaire ont beaucoup, beaucoup ralenti, ce qui veut dire que ce qu'on appelle en économie le taux de participation, la proportion des actifs qui ont effectivement un travail ou sont enregistrés au chômage. Ce taux de participation s'est littéralement effondré chez les plus jeunes. On parle pas du phénomène du vieillissement, parce que il s'agit vraiment des plus jeunes. Alors, les 19-24 ans, le taux de participation est retombé sur un plus bas niveau historique depuis le début des années 60.
Mais n'est-ce Alors, pas parce qu'ils dit, sont à l'université?
C'est pas grave, ils sont à l'université. Mais non, ils ne sont pas à l'université. Et d'ailleurs, l'université et les études coûtent de plus en plus cher. Alors, c'est très bien parce qu'il y en a un certain nombre qui viennent en Europe, du coup, d'ailleurs. Mais vous voyez à quel point je crois qu'il faut faire attention. Et c'est peut-être ça, en cela, que Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale américaine, a apporté beaucoup de clarté, c'est qu'elle a su regarder au-delà des données économiques traditionnelles. Elle nous a dit il y a 3 ans, attention, le taux de chômage est bas, mais il faut regarder bien d'autres indicateurs pour comprendre la réalité du marché de l'emploi. Et elle a déployé, je ne sais plus, 9 ou 10 ou 14 indicateurs, dont le travail forcé à mi-temps pour ceux qui, effectivement, ne trouvent pas davantage, donc travail à mi-temps sur des petits boulots. Et tout ceci est très important parce que sinon, on ne comprend rien à ce manque de dynamisme de la croissance et de la consommation en particulier. Et on ne comprend comprends rien au phénomène, à la revendication des populations, à ce ressenti des populations. Ajoutons, et je finis très vite, les 10 années avant la crise de 2008, on peut considérer que la montée du taux d'endettement a permis d'augmenter la croissance de 1,8 points par an. Nominal. Donc on était à 4,8. Si vous enlevez cette possibilité de vous endetter, vous revenez à 3% nominal, ça fait à peu près 1,5%. Réel, 1,5% d'inflation, dans le meilleur des cas, ça fait pas davantage. Il faut prendre cette histoire de l'endettement comme un élément très important de l'histoire de l'endettement américain et du reste du monde d'ailleurs, hein, parce que cette ressource d'endettement a véritablement alimenté la croissance américaine un peu plus que les autres pendant des années. Aujourd'hui, on n'a plus ce ressort de croissance-là.
William Stewart, comment expliquer que puisqu'il y a si peu de chômage aux États-Unis, officiellement, les deux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump, les deux candidats à la présidentielle, font de la création d'un très grand nombre d'emplois un des arguments de leur campagne.
Parce que le public aime entendre ça.
C'est tout. Ça ne repose sur aucune raison économique.
À un moment donné, M. Trump était très critique de l'économie américaine. Il disait que la plupart des Américains étaient beaucoup plus pauvres que les Philippins, par exemple. Ce qui est ridicule. Et Hillary et compagnie ont répondu, mais attendez là, on est très fiers des États-Unis et du président Obama qui a fait ceci, cela. Hillary Clinton, Donald Trump ou Barack Obama ou même Mitt Romney ne connaissent rien sur l'économie. Absolument rien.
Mais est-ce que le chômage relativement faible aux États-Unis, est-ce qu'il s'explique par le fait que la population américaine vieillit? Et qu'il y a donc des gens qui sortent de l'emploi automatique.
Oui, et les aides aux chômeurs, qui sont plus forts aux États-Unis qu'en France d'ailleurs, dans la plupart des États, pas dans le Mississippi.
Dans les aides au chômage sont plus fortes aux États-Unis qu'en France.
Bien, c'est très complexe parce que tous les États sont différents. Mais ils durent moins longtemps. Et donc on a l'impression à rechercher un emploi qui n'a rien à voir avec la santé de l'économie. Mais qui a à voir avec le fait que les gens sont mieux payés pour ne rien faire et peuvent le faire plus longtemps. Point.
Okay. Point. Alors, on va partir dans le Mississippi où la population agricole est importante et elle vieillit. 3 agriculteurs sur 10 aux États-Unis dans la population agricole ont plus de 65 ans. Les États-Unis sont l'une des premières puissances agricoles mondiales, soja, blé, maïs, coton. C'est une agriculture intensive sur des exploitations de taille industrielle. À l'inverse, des fermiers d'un genre nouveau font leur apparition. Marshall Bartlett a 27 ans. Il a repris la plantation de coton de ses parents pour en faire un modèle d'élevage responsable dans les plaines du Mississippi. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Carlotta Morteo.
Des cochons bruns, noirs, tachetés, gambadent dans un pré. Plus loin, des agneaux et des moutons se sont visiblement évadés de leur enclos.
Notre ferme, comme tu peux voir, est complètement ouverte, donc les animaux sont libres. On élève des espèces de cochons plus anciennes, du coup la viande a beaucoup plus de goût, c'est une meilleure qualité, donc c'est aussi beaucoup plus cher. On n'abat que 15 cochons par semaine. Certaines entreprises aux alentours en produisent 8000 par jour. Donc on est tout petit si tu nous compares à eux. Mais le revenu et notre marché de distribution est bien plus important que la plupart des petits producteurs du coin.
Depuis un an, Marshall Bartlett, grand, blond, vieux jean et bottes de caoutchouc, a installé son élevage au cœur des champs de coton que possède sa famille depuis 5 générations.
Je ne voulais pas être dans la monoculture intensive. J'ai vu mon père travailler avec tous ces produits chimiques et il n'y a aucune liberté dans ce modèle. Tu es dépendant de forces que tu ne contrôles pas. Tu dois dépenser énormément en produits chimiques, en graines, en fertilisants et les prix sont dictés par ces énormes entreprises. Monsanto, Dupont, eux font des millions de dollars évidemment, vu que nous, agriculteurs, sommes obligés de leur acheter les produits. Et puis ta récolte est dictée par la bourse à Chicago, des facteurs internationaux, la spéculation. Donc tu fais de ton mieux et tu croises les doigts pour que ça marche, mais tu n'as aucun contrôle.
Son modèle à lui est vertical et intégré. Il élève ses bêtes, les abat et distribue la viande directement aux restaurateurs, ce qui lui permet de fixer ses prix et de bâtir des relations commerciales durables.
C'est très excitant et surtout au fil du temps, c'est de plus en plus lucratif, contrairement à ce que pensent les gens du coin qui disent qu'il faut produire en masse pour survivre. Petit à petit, on fait changer les mentalités.
À commencer par la mentalité de ses parents et de ses proches.
Je pense qu'ils étaient sceptiques sur ma capacité à faire ça fonctionner. Et quand l'entreprise a commencé à prendre off,
au début, ils étaient sceptiques sur ma capacité à développer cette affaire. Et quand on a commencé à décoller, qu'ils ont vu qu'on doublait nos revenus tous les 6 mois, ils ont vraiment été choqués. Et puis tu sais, le Mississippi rural est en grande difficulté économique. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui s'installent. Et je pense que c'est une belle façon de combattre ce déclin. On a des ressources ici, de la terre, des gens travailleurs et le pouvoir d'achat des consommateurs urbains qui veulent manger ce genre de produits.
Marshall ne manque pas d'ambition. Dans 10 ans, il aimerait avoir réussi à convaincre et à associer d'autres petits producteurs de la région pour constituer un vaste réseau, ce qui ferait grandir sa marque sans faire grossir la taille des exploitations.
Un reportage signé Carlotta Morteo dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'économie américaine avec 4 invités. Denis Ferrand, directeur général de Coerexeco, de Douglas Yates, professeur à Cergy Pontoise, Véronique Riche-Flores, fondatrice de Riche-Flores Research, et William Stewart, professeur à l'American Graduate School de Paris. Douglas Yates, ce fermier du Mississippi, Marshall Bartlett, il pourrait incarner une Amérique, selon vos voeux, qui refuse le gigantisme?
Oui, et cette Amérique, c'est l'Amérique du 19e siècle qui a créé des institutions assez démocratiques. C'est l'Amérique qui a combattu pour la fin de l'esclavage. C'est, même si c'est en Mississippi, c'est l'Amérique rurale, c'est un idéal. Mais ce sont les vraies perdantes. Les petites fermiers aux États-Unis sont des perdantes contre les multinationales américaines, comme les petites fermiers en Mali sont des perdantes. Et donc, les gagnantes dans cette économie sont les grandes société, les perdantes sont les petites gens. Mais en perdant, on apprend, on survit et on adapte.
On apprend à survivre.
Oui, et on adapte. Donc on adapte comme les fermiers en France adaptent. Ils trouvent, s'adapter, ils trouvent des nouveaux marchés intérieurs, les nouveaux gens qui veulent acheter des produits organique, mais c'est la survie pour le monde rural américain. C'est pas du tout le grand réussite. Les grandes sociétés comme Monsanto sont les gagnantes. Les petits fermiers, de plus en plus, ont besoin de subventions juste pour survivre. Et la Mississippi, c'est une misère de pauvreté éternelle là-bas, à cause de son dépendance à l'agriculture.
Mais est-ce que ces gens-là refusent la mondialisation qui est la marque de notre époque?
Oui. Exactement, et c'est un peu ça la solution. La pauvreté aux États-Unis n'a pas aucune comparaison avec la pauvreté dans le tiers-monde. La pauvreté, c'est relative. Donc, de plus en plus, des gens, des billionnaires, des milliardaires, ça vous fait sentir pauvre. Mais la réussite, c'est d'ignorer ça et continuer autant. L'agriculture améliore chaque jour. On avait des nouvelles techniques, des nouvelles connaissances, la science avance et les pratiques deviennent plus en plus soutenable.
De différents.
Oui, sur cette question de la mondialisation, il y a un vrai enjeu qui est apparu justement pendant cette campagne électorale. La question de la politique commerciale a été un des thèmes très forts de débat aux États-Unis, avec des positions qui sont d'ailleurs pas très éloignées entre Clinton et Trump.
Qui refusent tous les deux.
Qui refusent notamment le TTIP, donc l'accord de partenariat transpacifique qu'avait déjà signé Barack Obama, mais qui doit être ratifié, avec également une méfiance vis-à-vis de l'octroi du statut d'économie de marché à la Chine, ce qui rendrait plus difficile des dénonciations de pratiques de dumping que pourrait faire la Chine. Mais parce qu'il y a derrière un ancrage d'un message de méfiance vis-à-vis de la mondialisation, illustrée effectivement dans le monde agricole, mais qui tient aussi à l'évolution de la structure sociale de l'économie américaine. Qu'est-ce que l'on a vu, pour revenir sur la partie de l'emploi, qu'est-ce que l'on a vu au cours des 10-15 dernières années? On a vu une sorte de polarisation des emplois. Polarisation des emplois dans le sens où ceux qui se créaient, c'était des emplois dans le haut de la distribution des salaires et des emplois dans le bas de la distribution. Enfin, ça, c'est jusqu'à 2007-2008. Et il y a eu, en revanche, un pincement de tous ceux qui se trouvaient au milieu de la distribution des salaires, tout ce que l'on a appelé la classe moyenne, qui a vu son revenu plutôt stagner, des créations d'emplois beaucoup plus limitées que ce que l'on trouvait tout en haut de la distribution et tout en bas de la distribution des salaires.
Véronique Riche-Flores, ce pincement des emplois entre ceux du haut et ceux du bas, est-ce qu'il explique les inégalités? Est-ce que c'est la marque des inégalités croissantes aux États-Unis?
Alors, c'est plus complexe. Je pense qu'il y a dans les inégalités aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sortent du marché de l'emploi. Donc, ceux-là, ils sont pas dans les statistiques. Et ils sortent du marché de l'emploi souvent parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'ils sont dans des régions qui ont eu du mal à retrouver une santé économique depuis la crise de 2008. Et ceux-là, ils restent avec, en général, beaucoup de dettes parce qu'ils ont quand même eu accès à l'acquisition de leur maison il y a quelques années et bien évidemment une maison qui n'est pas revendable, des enfants qui sont mal formés, à qui on peut pas forcément non plus payer des études et qui souvent sont sans qualification et du coup qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a plus de mobilité. Avant, un Américain bougeait en moyenne 3-4 fois dans sa vie active. Il pouvait passer d'est en ouest parce que la situation était meilleure et on vendait sa maison où on n'en avait pas, on n'était pas endetté et on allait chercher l'emploi là où il était. C'était une capacité d'alimenter la croissance et qui était enviée de beaucoup de pays, en particulier d'Europe. Cette mobilité est perdue. Donc ça fige des situations. Et le fait que ces populations ne puissent plus bouger, qu'elle soit surendettée, qu'elle soit cantonnée dans un endroit où il y a moins d'emplois, effectivement, ça accentue les disparités régionales, ou même entre la ville et la lointaine banlieue, des disparités entre États qui sont de plus en plus marquées, profondes, et c'est ça la différence avec l'histoire américaine, et c'est ce qui génère effectivement des crispations, des écarts, un creusement des écarts.
Denis Ferrand, vous voulez réagir à ce que dit
effectivement, ce qu'évoque Véronique est tout à fait clé. Ce qui les États-Unis fondamentalement, c'est une société de l'optimisme, c'est une société où il y a toujours la possibilité de se révéler, an aspiration country, comme se présentent les Américains. Donc toujours une possibilité à se porter. Et ce qui apparaît sur la période récente, c'est qu'on a l'impression d'une société qui effectivement peut se figer, avec une société qui prend de plus en plus des travers d'une société de l'hérédité qui passe notamment par le fait que l'accès aux très grandes écoles est réservé à des personnes qui auront bien voulu financer des fondations. Enfin, et c'est quelque chose qui est totalement antinomique, antithétique de ce qu'est fondamentalement la société américaine. Et c'est là qu'il y a, au-delà des inégalités économiques, il y a fondamentalement une perception de montée d'inégalité liée à de l'hérédité.
Donc la sieste, vous partagez ce point de vue?
Oui, l'idée.
C'est un pays de rentier, finalement, que nous décrit.
Pas encore.
Ce qu'on voit, c'est avec une grande réussite économique, on crée des richesses, mais aussi des inégalités. Donc, c'est le rôle du gouvernement de redistribuer avec une imposition. Et là, aux États-Unis, le gouvernement a fait échec à cause de la démocratie. On ne peut pas faire une campagne sur je vais augmenter les taxes. On a un très bas taux d'imposition aux États-Unis. États-Unis, qui laisse une croissance d'inégalités. Et là, c'est hors du système. Le seul candidat qui a parlé vraiment de l'économie américaine, c'est Bernie Sanders. Mais son discours gauchiste n'est pas majoritaire. Ça ne peut pas gagner. Mais l'idée que maintenant, quand vous avez les deux candidats et aucun ne parle des impositions, ou quand il parle de réduire plus des impositions, vous avez une garantie, si l'économie marche, l'inégalité va augmenter. Et ça, c'est pour moi un des grands problèmes du modèle américain actuel.
Douglas Yates, il y a quelques instants, vous disiez que la grande richesse économique américaine crée paradoxalement des inégalités. L'un des secteurs qui crée le plus de richesse en ce moment dans le pays, c'est le secteur de l'Internet. Et c'est valable même au royaume du pétrole, au Texas. Par exemple, à Austin, la capitale texane, on compte 5500 entreprises dans ces secteurs de pointe de l'Internet, de la high-tech, et 46 pépinières ou incubateurs de start-up. Le principal d'entre eux s'appelle Capital Factory. En 7 ans d'existence, cet incubateur de Austin a vu défiler près de 50 000 entrepreneurs. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Carlotta Morteo à Austin, Texas, États-Unis.
C'est dans le hall d'une grande tour de verre en plein centre-ville d'Austin que je retrouve Fred Schmidt, directeur des relations internationales de Capital Factory.
We took out the top floor as our initial office space.
Nous avons commencé avec des bureaux au dernier étage, mais il s'est très vite rempli. Donc on a aussi investi le cinquième étage. Et là, au rez-de-chaussée, on installe une nouvelle section de réalité virtuelle. On est aussi partenaire de l'hôtel qu'on va transformer en laboratoire technologique, avec plein d'innovations dans le domaine de l'hospitalité.
La croissance de cet incubateur et accélérateur de start-up en seulement 7 ans d'existence est impressionnante. Actuellement, 300 entreprises sont sous son aile.
Nous recevons entre 80 et 100 dossiers chaque mois, et on n'en accepte que 4 ou 5, donc c'est très compétitif. Ensuite, on leur offre le reste des ingrédients pour les faire émerger.
Les jeunes pousses assistent à des formations, bénéficient de nombreux services et surtout accèdent à un réseau d'investisseurs qui vont pouvoir les financer.
Leur travail, c'est de rencontrer le plus de tuteurs et de partenaires parmi les 160 qui font partie de notre écosystème et d'en convaincre au moins deux d'investir personnellement 25 000 $ chacun dans leur start-up. À partir de là, l'entreprise peut demander un financement à notre fonds d'investissement. Nous en avons 4 et nous nous apprêtons à en ouvrir un 5e. Ce n'est pas automatique, mais c'est très très probable que notre fonds d'investissement égale l'investissement initial. Donc maintenant, la start-up a 100 000 $. Et puis enfin, tous les business angels du monde entier peuvent aussi investir. Donc typiquement, une start-up commence avec 200-250 000 $ d'investissement s'ils utilisent tous les outils à leur disposition.
Une fois lancées, ces start-up ne s'envolent plus en Californie, mais choisissent de s'installer durablement à Austin.
Texas is one of the most business-friendly states in the entire United States. Le Texas est l'un des États les plus business-friendly des États-Unis. Nous avons très peu de réglementation et de régulation comparé à la Californie. Et nous n'avons aucune taxe sur le revenu. Et ça, ça attire beaucoup de gens qui veulent quitter la Californie ou New York pour s'installer dans un endroit moins cher où tout est plus abordable.
La capitale du Texas était réputée pour ses festivals de musique. Désormais, il faut aussi compter Austin parmi les hauts lieux de l'entrepreneuriat américain, à moins de 3000 km de la Silicon Valley.
Carlota Morteo, à Austin, au Texas, Douglas Yates, si vous fondiez une start-up, vous la créeriez dans la Silicon Valley, en Californie, ou à Austin, au Texas?
Oh, certainement dans la Silicon Valley, parce que précisément le bateau d'imposition fait que vos écoles sont inférieures, que vos infrastructures sont écroantes, que vous avez une classe des esclaves qui viennent de l'autre côté de la frontière, qui n'ajoute pas cette valeur ajoutée. Mais ce qu'on avait là-bas dans ce reportage, c'est important, c'est l'esprit d'entrepreneur. C'est un esprit de libre entreprise qui fait une richesse culturelle aux États-Unis, partout, pas seulement en Texas. Texas, c'est gentiment fait argumentation qu'il a le climat le plus attirant pour le business, mais on peut dire Rhode Island, ou les petites...
Ça c'est au nord. Hein.
Oui, qui donnait des drapeaux aux entreprises, mais la chasse au fond avec les impositions, c'est la folie. Parce que finalement, à la longue, il faut enrichir votre société. Et la raison que tout le monde veut aller à Stanford et pas à les très bonnes universités en Texas, c'est le climat dans lequel vous faites votre entreprise. Texas a changé énormément. Il y a deux Texas aussi, le Texas Petrolier Houston et le Texas de Austin, qui est plutôt vert, comme vous avez bien montré. L'entreprise est plus libérale et plus progressiste. Mais la raison que Californie est le 8e puissance mondiale, c'est en partie parce qu'il y a un grand taux d'imposition qui donne des bonnes universités, qui donne l'infrastructure pour Internet, qui donne une société qui est assez riche et assez inventive pour créer, pendant que Texas va sombrer dans le problème qu'il a créé avec ses propres politiques.
Véronique Riche-Flores, tout au long de cette émission, on a l'impression que dessine un pays, les États-Unis, où il y a un affrontement entre l'État, la puissance publique, et le privé, la puissance privée, les grandes entreprises, les multinationales, où l'un et l'autre ne vont pas du même pas.
Oui, peut-être, et ça interroge d'autant plus qu'on parle quand même d'une période post 8 années de présidence Obama, où l'influence et le rôle de la puissance publique a quand même été considérablement augmenté par rapport aux standards américains. Bien sûr, on a tous en tête la réforme de la santé. Mais voilà, alors il y a cet enthousiasme de l'américain par rapport à la libre entreprise, effectivement, et puis il y a ce qu'a très bien décrit écrit Douglas, oui, que finalement dans les États où il n'y a pas de dépenses publiques parce qu'il y a de faibles taux d'imposition, donc il n'y a pas d'infrastructure, il y a finalement une rentabilité économique qui en est éprouvée. Et ça, on revient là sur un sujet de fond de l'économie américaine, parce que c'est assez général, même si la Californie est sans doute un petit peu à l'écart. C'est cette absence, ce retard, par exemple, en matière d'infrastructure de l'économie américaine.
C'est-à-dire les routes, les chemins de fer.
Les routes, les chemins de fer, les moyens de communication qui sont très importants. Et même en Californie, si vous allez dans les grandes villes, Los Angeles, comment vous déplacez-vous autrement qu'en voiture? Et pas pour faire 2 kilomètres, mais pour faire précisément beaucoup plus. Dans une population qui vieillit, comment est-ce qu'on va faire quand, par exemple, à un certain âge, on peut moins facilement se déplacer en voiture? Tout ceci montre qu'effectivement, c'est juste pour prendre conscience à quel point, effectivement, il faut changer le regard et peut-être l'analyse sur l'économie américaine.
Eh bien, on en reparlera probablement dans une autre émission. Merci à vous quatre, William Stewart, Douglas Yates, Véronique Riche-Flores, Denis Ferrand, d'avoir participé à cette émission qui est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver ce programme ainsi que les reportages de Carlotta Morteo sur le site www.rfi.fr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Géopolitique,